Bonjour à tous, bienvenue dans Le Meilleur Reste à Venir, le podcast qui veut vous donner envie de vivre en 2050. Bienvenue dans la suite de notre série de podcasts sur la maison du futur. Alors dans la première partie, cette maison, on l'a construite. On a utilisé des imprimantes 3D, des super matériaux. Bon, il est grand temps de franchir le pas de la porte, d'aller la visiter quand même, notre maison. Et dans cette deuxième partie, on va voir comment la maison de demain va nous chouchouter, voire se transformer parfois en assistant médical.
Le meilleur reste à venir. Un podcast BFM Business avec Anthony Morel.
On est toujours avec Anne-Caroline Pocot. Rebonjour Anne-Caroline.
Bonjour.
Écrivaine prospectiviste qui a écrit entre autres Du côté de chez soi, La maison du futur aux éditions Les Propulseurs et plein d'autres livres sur notre vie dans les années, dans les décennies qui viennent. C'est absolument passionnant. Et puis Thomas Serval. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Le fondateur de Barracoda. Alors Barracoda, c'est une entreprise que je croise assez souvent sur les grands salons technologiques, genre CES de Las Vegas, etc. Parce qu'ils inventent un peu certains morceaux de la maison du futur et on va notamment parler de miroirs connectés, de tapis de salle de bain. C'est un peu la salle de bain du futur, hein, Barracoda, c'est ça.
On essaie d'inventer les objets du quotidien du futur.
Très bien. Alors, Anne-Caroline Pocot, ça vous parlait de tout ça d'ailleurs dans votre livre, où vous imaginez des scénarios fictifs qui mettent en scène des maisons du futur. Et l'une d'entre elles, c'est une maison ultra connectée. Et au fond, c'est tous les objets de la vie quotidienne dans lesquels on injecte des briques d'intelligence. Donc, vous imaginez la porte d'entrée qui s'ouvre parce qu'elle a le paillasson connecté à identifier le chat qui s'approchait, le grille-pain qui va imprimer des messages qu'on reçoit par les réseaux sociaux sur les tartines, un canapé connecté.
Ça dépend des jours, hein, des messages d'amour ou bien le planning de la journée. Hein,
alors, c'est ça. Oui. Mais oui. En tout cas, des petits messages qu'on reçoit par
Internet.
Oui, parce
qu'en fait, on veut redonner un peu de réel dans cette technologie. Alors, pour avoir du réel, d'avoir un petit message d'amour sur sa tartine, c'est tout de même...
Si c'est le message d'amour, c'est sympa. Si c'est votre patron qui vous enguirlande dès le matin au petit déjeuner sur la tartine, c'est moins sympa.
Ça passe de travers,
c'est vrai. Et puis, vous imaginez même un canapé connecté qui nous propose un programme télé personnalisé en fonction de la journée qu'on vient de vivre. Enfin, finalement, c'est ça la maison de demain. Elle va être au petit soin avec nous, quoi.
Elle va tenter d'utiliser nos datas, en résumé, pour pouvoir nous aider à mieux vivre.
Mais ça nous aide vraiment à mieux vivre dans tout ce qu'on vient de décrire là ?
C'est pas sûr.
C'est pas sûr.
Par contre, si on va en fonction de nos datas, on peut nous aider à choisir nos vêtements le matin. Et qu'on est un peu fatigué, du coup, peut-être que ça va nous aider. Après, d'avoir le programme de télévision qui soit adapté, ça risque effectivement d'avoir quelque chose de très moyen.
C'est ça.
Et qui va satisfaire moyennement.
C'est ça.
Et on va être après moyennement content.
Non, mais là où ça va devenir intéressant, parce que là, ce dont on a parlé, il y avait un petit côté un peu gadget, évidemment, mais c'est quand on va s'intéresser à notre santé. Et la maison de demain, clairement, elle va s'intéresser à notre santé. Vous parlez d'ailleurs dans votre livre de la salle de bain du futur, d'une brosse à dents qui analyse la qualité du brossage et qui va analyser notre salive, d'une balance connectée qui envoie des informations qui vont s'afficher sur le miroir qui fait aussi figure de tableau de bord de santé. Et ça, c'est amusant parce que c'est en partie en train de devenir réalité. Vous l'avez écrit en 2014-2015, votre livre. Et c'est ce sur quoi travaille Barracoda aujourd'hui. Un miroir intelligent, miroir mon beau miroir, dis-moi si je suis en bonne santé, en fait, c'est ça.
Oui, alors on a inventé en 2013 la brosse à dents connectée qui analyse...
C'est vrai.
On a commencé par la brosse à dents, si on veut parler de notre origine. On est né de cette logique de trouver des objets du quotidien qui allaient amener un petit plus. Et donc le miroir, une fois qu'on a inventé la brosse à dents, immédiatement, en fait, il faut restituer l'information. C'est-à-dire, quelque part, si vous prenez de l'information autour de vous et que vous ne la restituez pas, pour montrer de la valeur à l'utilisateur, à un moment donné, il va se poser la question. Et donc, en fait, comment restituer cette information ? Déjà, surtout pas brutalement, immédiatement. On n'a pas envie de vous dire, vous avez une sale tête ce matin.
Ou mauvaise haleine, si vous crachez sur votre miroir.
Il y a capturer l'information d'un côté et la restituer. Donc, une des manières de la restituer dans la salle de bain ou d'accéder systématiquement aux services digitaux qui sont maintenant partie de notre vie. 82% des Français amènent leur téléphone dans leur salle de bain. Donc, on a besoin de ces services digitaux, qu'on écoute la radio, en fait, c'est quand même ou des podcasts. On a inventé il y a 15 ans.
J'en connais de très bons.
Oui, moi aussi. Ouais. On a besoin d'amener ces services digitaux et le miroir semblait être... la surface et l'endroit où on avait une grande partie de l'attention, parce que vous le regardez assez souvent, et où on pouvait afficher un certain nombre d'informations.
Mais alors là, du coup, ça va être quoi concrètement ? C'est-à-dire que le miroir de demain, je le regarde, mais il me regarde aussi et il me donne un certain nombre d'informations. Alors, pas que, mais aussi liées à la santé. Quel type de capteur il comporte ? Quel type de données il va récupérer ? Et quel type de données il va afficher ?
En fait, le miroir, c'est une interface vers l'utilisateur. Ce qui va compter dans la salle de bain, c'est quelque chose qu'on a inventé qui s'appelle CareOS, qui est un operating system, un peu comme un Windows de la salle de bain, qui va vous permettre de faire plein de choses différentes. Donc le miroir, ce n'est qu'un écran, une interface qui va vous afficher des informations. Alors qu'est-ce que va être le miroir reconstruit et déconstruit dans la salle de bain ? En fait, si on réfléchit bien, un miroir, c'est une caméra, quelque chose qui capture une image, et puis quelque chose qui la raffiche. Donc en fait, un miroir du futur, ça va être une combinaison entre une caméra qui va prendre votre photo, ou le film de vous, et puis qui va le réafficher d'une manière ou d'une autre. Alors, il pourra le réafficher tel qu'elle est, ça c'est le miroir qu'on connaît, avec des difficultés technologiques. En fait, vos yeux ne sont pas au niveau d'une caméra, parce qu'il faudrait mettre deux caméras. Donc en fait, il y a des problèmes techniques qui ne sont pas encore tout à fait réglés. Une fois qu'on a réglé ce problème-là, et on le réglera parce qu'on a les technologies pour le faire maintenant, le miroir va vous donner soit de l'information brute, c'est à quoi vous ressemblez, soit peut-être rajouter qu'en haut à gauche, votre grain de beauté il est un peu bizarre, et donc faire de la réalité augmentée en vous disant « regardez là ouais. ». On peut dire que c'est un instant donné à fournir un service donné. Mais ce qui est le plus intéressant dans une salle
de bain... Il est capable aujourd'hui, le miroir, il est vraiment capable d'aller à ce niveau de détail-là, de dire le grain de beauté, il est un peu bizarre, tu devrais consulter un dermato.
Bien sûr, en fait, aujourd'hui, on déconstruit. Donc, en fait, si on dit que le miroir, c'est une caméra, aujourd'hui, la caméra et l'intelligence artificielle sont de meilleurs prédicteurs de problèmes dermatologiques que l'œil humain. Okay, juste pour vous donner des ordres de grandeur d'où est-ce qu'on en est, avec une caméra, on sait détecter des problématiques au millimètre. Donc, ça veut dire que tout ce qui est de l'ordre du visible, le miroir le voit. Et il existe des objets qu'on peut poser sur vous, qui sont de micro-caméras, qui vont à l'échelle du micron et qui vous donnent un service qui est meilleur ou équivalent à ce que vous auriez dans un laboratoire d'analyse médicale.
Ça, avec le miroir que vous commercialisez aujourd'hui, on a accès à ce genre de données.
Alors, on a les.
Donc, c'est un dispositif médical, parce que c'est important, il y a une distinction entre bien-être et médical. C'est un dispositif médical aujourd'hui, un miroir comme celui-ci ?
Alors, nous, on fait une plateforme. Donc, il faut faire très attention de ne pas faire les choses n'importe comment. Donc, on fait une plateforme qui permet d'installer des applications. Les applications dessus, certaines sont certifiées comme étant médicales. C'est-à-dire, si on leur donne la photo, ils ont construit l'intelligence artificielle et ils ont validé ces éléments-là pour pouvoir faire un diagnostic médical. Donc, il y a des applications, notamment des startups italiennes, qu'on peut intégrer dans notre miroir qui font ce travail de diagnostic, mais pas tous. Donc, quelque part, il faut faire très attention entre est-ce qu'on fournit un service médical, est-ce qu'on fournit un service de beauté. Donc, on fait, par exemple, avec Pierre Fabre, on fait dans les pharmacies maintenant l'analyse de votre peau. On ne va pas aller jusqu'au diagnostic médical, on ne va pas remplacer le dermato, mais on va quand même dire que vous avez des rougeurs et vous conseillez telle ou telle crème. Et ça, ce n'est pas de la science-fiction. C'est aujourd'hui, vous allez dans le sud, à Toulouse.
C'est quoi d'autre comme type d'information ? Ça va être mon rythme cardiaque, j'imagine.
Alors aujourd'hui, ce qu'on sait faire.
La respiration.
Voilà. Encore une fois, là, on n'est encore que dans la partie que j'appellerais spot, c'est-à-dire ce qu'on peut faire à un instant donné. Le plus important, et je vais y revenir après, si vous me l'autorisez, c'est en fait, on vous voit aussi tous les jours. Et ça change totalement le rapport à la médecine. Donc, partons sur les choses qu'on peut faire à un instant donné. Si vous donnez une minute de temps à notre miroir, aujourd'hui, on a montré ça à Las Vegas en janvier,
au CES,
on peut montrer votre rythme cardiaque, votre taux de saturation en oxygène, juste à partir de la caméra, le nombre de respirations par minute, à partir d'une caméra infrarouge, votre température, pour les histoires de Covid, dès que vous avez un peu de fièvre, on peut le savoir. Et les découvertes qui ont lieu aujourd'hui, basées sur ce qu'on appelle, nous, de la caméra-based intelligence, donc sur la capacité qu'a une caméra de détecter de plus en plus de choses, n'arrête pas d'avancer. Un autre exemple de quelque chose qu'on peut faire qui est lié à ce qu'on sait faire dans la brosse à dents, c'est que si vous brossez les dents tout en cachant la brosse à dents, parce qu'on ne voit pas la tête de la brosse à dents, on sait où est-ce que vous êtes dans la bouche aujourd'hui avec une précision de 95%.
Anne-Caroline, je vous fais réagir là-dessus. On s'est fait enguirlander par son grille-pain parce qu'on a reçu une tartine avec un message de son patron. Après, on va se brosser les dents. Il y a votre miroir qui vous dit « Ah, quand même, t'as une drôle de tête ce matin, ton grain de beauté, là, il est un peu bizarre. » On passe une drôle de tête.
Justement, moi, c'est la question que j'allais poser. Hein. Est-ce que vous avez un service pour traiter l'hypochondrie ? Alors, parce que là...
On va créer générations d'hypochondriacs.
Oui, on va vraiment être malade, réellement. Alors, c'est-à-dire, on va être malade d'être en bonne santé.
Alors, c'est pour ça que j'ai vraiment séparé, il faut bien comprendre, la partie capture de l'information, ce qu'on peut savoir, et après, comment on l'exprime. Nous, on a la chance d'avoir plusieurs millions de personnes qui utilisent nos brosses à dents au quotidien. ils l'utilisent devant des écrans qui sont des smartphones. Donc, quelque part, on a déjà un dispositif qui ressemble à cette salle de bain du futur.
Oui, mais la balance connectée, par exemple, tout le monde l'abandonne. Parce que c'est un cauchemar.
Mais on a aussi... alors, vous, je vais répondre à votre première question, puis après, je répondrai à votre deuxième.
C'est bien parce qu'Anne-Caroline, elle fait les questions et les réponses. Elle participe au podcast, mais elle fait les questions aussi. C'est parfait.
Franchement, on va s'amuser. Donc, ce qu'on sait détecter à partir du miroir, c'est à partir juste de votre visage, on sait détecter de quelle humeur vous êtes. Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que vous êtes de bonne humeur? Vous êtes souriant, etc. C'est un élément qu'on utilise dans nos interfaces. C'est-à-dire, quelque part, si on sait que vous êtes stressé, ou si, par exemple, on est connecté à votre agenda et que vous êtes... ou que c'est le matin et que vous devez ramener les trois enfants à l'école, la dernière chose qu'on va vous demander, c'est prenez une minute pour respirer. C'est-à-dire, quelque part, il y a, dans l'intelligence artificielle, l'étape qui fait que ça marche, c'est pas qu'on diagnostique ce qui se passe, c'est qu'on envoie le bon message au bon moment. Et ça, c'est la
l'idée, c'est pas donc, c'est de l'anxiété à l'utilisateur.
Évidemment. C'est une machine qui va me dire « respire ».
Une machine qui vous dira mais votre rythme cardiaque.
Je vous sens critique quand même, Anne-Caroline. Vous croyez pas à ces objets connectés pour la santé dans la maison? Parce qu'il va y en avoir de plus en plus. Vous dites, les balances, on les abandonne, mais enfin, il y en a de plus en plus sur le marché et de plus en plus sophistiqués. Donc, il doit s'en vendre quand même quelques-unes, je pense.
Je pense que si, en fait, d'être en bonne santé, c'est d'avoir un corps en désordre. C'est-à-dire, il faut que ça batte dans tous les sens et tout. Et à un moment donné, si on veut tout rentrer dans une machine, on va devenir vraiment malade.
Mais attendez, mais vous dites ça, mais enfin, moi, je suis un peu hypochondriaque. Ouais. Je dis. Bon. Mais quand même, je veux dire, si le miroir me dit « t'as un problème avec ton grain de beauté et qu'effectivement, il y a un problème avec le grain de beauté et que je ne m'en serais pas rendu compte autrement », enfin, je me dis que c'est quand même mon miroir qui peut potentiellement me sauver la vie. C'est pas mal. C'est quand même c'est une avancée quand même.
Peut-être, oui. Certaines choses, mais pas au quotidien, en permanence. On va aussi avoir les WC connectés.
Mais tout ce que vous décrivez, on le fait et on sait le faire. Donc, en fait, la question, c'est comment on l'exprime. Donc, typiquement, nous, ce qu'on a remarqué sur nos essais, c'est less is more. Moins on en met, plus c'est pertinent. Donc, quelque part, votre brossage de dents, on vous le dira que si vous ne l'avez pas bien fait. Et la plupart des maladies, elles n'arrivent pas parce qu'un jour, vous n'avez pas fait quelque chose, elles arrivent parce que pendant longtemps, au même moment ou au même endroit, il s'est passé une négligence. Mmh. Donc, nous, tel qu'on imagine la salle de bain du futur et la plateforme qu'on a créée, qui s'appelle CareOS pour s'en occuper, on appelle ça une plateforme pour créer de bonnes habitudes. En fait, on a des routines qui nous ont été inculquées par notre éducation, par notre environnement culturel. Il faut se laver les mains. En fait, un truc amusant, donc une routine toute bête. Faut se laver les mains. Alors, la plupart des civilisations anciennes, moyenne-orientales, indiennes, etc., considèrent que pour des rites de purification, le lavage de mains est essentiel. Ils se lavent les mains 7 à 10 fois par jour. Si tout le monde, aujourd'hui, se lavait les mains 7 à 10 fois par jour, 90% des maladies dans le monde disparaîtraient. C'est l'OMS qui dit.
Bon, avec le Covid, on ne doit pas être loin, là, quand même. Hein.
Et, donc, et le Covid a ramené des éléments hyper simples qui confirment qu'on n'a pas besoin de beaucoup de technologie pour pouvoir être en bonne santé. Il suffit d'avoir de bonnes habitudes. Ouais. Or, il se trouve que dans nos sociétés occidentales où le médicament a réglé la plupart des maladies communes, ces bonnes habitudes ont disparu.
Mais donc là, c'est les appareils connectés qui vont me dire « lave-toi les mains ».
Ces appareils connectés vont permettre d'abord de redéfinir ce qu'est une bonne habitude, parce que maintenant, on a non seulement les habitudes, mais on a aussi le résultat de la négligence. Donc, on va pouvoir lier le fait que, par exemple, on ne se lave pas les mains en sortant des toilettes, pour prendre un exemple qui est une des causes majeures de contamination des surfaces et des choses comme ça. Pour donner un contexte, si vous analysez votre téléphone aujourd'hui qui va aux toilettes quasiment avec vous systématiquement, ils sont extrêmement porteurs de bactéries et de mauvaises choses parce que les gens n'ont pas une hygiène.
Anne-Caroline, je suis
critique parce que ça ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire qu'on va après, ils vont nous mettre des tests tous les matins, des tests Covid, des tests grippe,
Ce qui est intéressant, c'est que vous posez la question de la limite, effectivement. C'est-à-dire que la technologie, comme vous le dites, on l'a aujourd'hui, mais où est-ce qu'on place le curseur entre ce qui est souhaitable pour l'utilisateur et ce qui va, parce que c'est la thématique de notre podcast, nous tirer collectivement vers le haut en tant qu'être humain, c'est-à-dire effectivement détecter une maladie que je n'aurais pas détectée tout seul et je ne serais peut-être pas allé chez le médecin, me donner des indications sur mon rythme cardiaque, etc., parce que je suis sportif et je vais avoir ce suivi-là. Et puis, effectivement, avoir, comme le font un certain nombre de géants asiatiques, proposer des toilettes qui vont analyser le contenu des toilettes en temps réel pour me dire si j'ai bien mangé ou pas. Comment est-ce qu'on fait pour trouver ce curseur? Est-ce que, par exemple, vous organisez, vous, chez Barracoda, des benchmarks avec des utilisateurs? Est-ce que vous réfléchissez avec des philosophes, des scientifiques? Enfin, comment est-ce que ça se matérialise?
Je prends un exemple on déconstruit et on reconstruit. Je ne sais pas si vous aimez la cuisine. La cuisine moderne, aujourd'hui, on essaie de déconstruire des choses pour reconstruire des plats, des senteurs, etc. Ce que permet la donnée et les capteurs actuels, c'est de déconstruire, puis après de reconstruire. Donc, on est dans une phase très, très intéressante de l'évolution presque de la santé publique, parce qu'on a les capacités de déconstruire et on a l'opportunité de reconstruire. Et cette opportunité, il ne faut pas la gâcher. Donc, si on la gâche en faisant n'importe quoi, par exemple en faisant que toutes vos données dans la salle de bain se retrouvent sur Facebook ou soient données à votre assureur, le gâchis, il est pour une génération ou deux générations. Donc, quelque part, nous, on essaye, depuis qu'on existe, c'est-à-dire une dizaine d'années, d'être une entreprise consciente de ça. Prenons un exemple sur la salle de bain, puisqu'on est dedans. C'est quand même le seul endroit...
On va sortir juste après, parce qu'il y a d'autres...
C'est le seul endroit où, même si vous avez un conjoint, vous vous enfermez. C'est-à-dire, quelque part, on est dans l'intimité la plus absolue. On n'invite pas... Quand vous êtes aux toilettes, il n'y a personne qui est avec vous. Donc, même si vous êtes dans l'intimité d'une famille, qui est quand même grande, on a besoin d'une sphère de vie privée. Donc, ce qu'on considère aujourd'hui, c'est qu'il existe des conditions nécessaires à ce que la salle de bain du futur existe. La première, c'est une garantie absolue côté consommateur, de la privacy, donc de du respect de la vie privée, de la confidentialité, de la sécurité. C'est pas donné. C'est-à-dire que si on attend...
Ça va même être probablement l'un des freins à l'adoption. C'est-à-dire que la question, c'est où est-ce que vont mes données,
Les assureurs commencent à déjà dire, si vous nous donnez certaines données, on va baisser les primes.
Absolument. Mais par contre, pour être tout à fait concret sur la régulation qui existe aujourd'hui dans le domaine de l'assurance santé, les assureurs n'ont pas le droit de pricer leurs assurances santé, en Europe et en France en particulier,
par rapport à vos conditions.
Ils ont le droit de vous demander si vous êtes un homme ou une femme, si vous fumez, mais en fait, votre poids...
Pour l'instant.
Alors, votre poids et votre tête. Donc ça, c'est un problème de régulation. Mais après, il y a les problèmes technologiques, un peu comme dans la carte à puce, on a été capable de sécuriser la transaction. Eh bien, il va falloir faire, et nous, on a inventé un protocole qui s'appelle Biconnect pour faire ça, il va falloir offrir, au-delà des fabricants chinois, des fournisseurs de type GAFAM, de services, etc., qui sont tellement addictifs, des garanties de sécurité pour que cette promesse qui est de faire de la prévention, soit acceptée par le consommateur. Et donc, ce n'est pas du tout donné, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Et donc, pour prendre un exemple de base sur les balances connectées, donc on a fait ce fameux miroir qui est en fait un peu notre fenêtre, mais on s'est intéressé à la balance. On a failli racheter une boîte qui faisait des balances il y a 5 ans, et on est arrivé à la même conclusion que vous. Non seulement on y est arrivé, mais on a les chiffres pour le justifier. Les gens ne se pèsent pas assez. Alors pourquoi ? Parce que c'est pénible de tirer la balance, de monter dessus et en plus d'aller chercher son téléphone pour avoir le résultat. Mais 60% des femmes qu'on interroge ne montent pas sur la balance aussi parce qu'elles sont déprimées le jour où elles voient leur poids.
Bah oui.
Et donc, on a inventé un truc qu'on appelle B-Balance, qui est d'ailleurs disponible en vente maintenant sur notre site.
Qui est un tapis.
Qui est un tapis de bain sur lequel vous montez tous les jours, qui ne vous donne plus jamais votre poids, mais qui mesure votre poids et votre équilibre, parce que l'équilibre est encore plus intéressant que le poids, et vous dit si jamais il y a une variation significative de votre poids, c'est-à-dire plus de 5%, ce qui a un impact médical. Si vous perdez plus de 5%, 1% du poids, c'est la précision des balances. Donc si vous flippez parce que votre balance vous explique que vous êtes à 65,2 et que vous étiez à 65,7 dans un sens ou dans l'autre...
Donc le but, c'est que ça ne se voit pas finalement.
Et le but, c'est que
s'il y a vraiment un problème, à ce moment-là, on vous le donne. Mais ça, parce que ça ne s'arrête pas. C'est intéressant. Alors, je ne sais pas, vous allez me dire si vous travaillez sur d'autres objets et d'autres pièces que la salle de bain. Moi, je pensais au lit connecté. Enfin, quand vous allez sur les grands salons technologiques, vous êtes bien placé pour le savoir. Maintenant, il y a tout un pan des salons qui sont dédiés à ce qu'on appelle la sleep tech, la technologie au service du sommeil. Et donc, des lits qui sont bardés de capteurs électroniques qui vont analyser mes cycles de sommeil, ma température, analyser la luminosité ambiante. Et demain, alors c'est notamment une entreprise qui s'appelle 8Sleep qui travaille là-dessus, une entreprise américaine qui est assez en vue dans la Silicon Valley, sur des capteurs médicaux qui seraient capables de détecter les symptômes de certaines maladies, de détecter un kyste, enfin, plein de choses comme ça, et de vous donner ces indications-là. Donc là encore, Anne-Caroline, c'est la question du curseur qu'on pose.
Ouais, c'est-à-dire, c'est la question de, est-ce que c'est la technologie qui va définir ce que c'est que la bonne santé ?
Oui.
Dire qu'est-ce que c'est pour une personne ou pour une autre, c'est pas la même chose. Et on peut être en bonne santé sans être dans des critères absolus définis par des ingénieurs.
Et alors, il y a la question derrière ça, c'est est-ce que finalement, le consommateur final aura envie de ça, c'était un peu ce que je vous demandais juste avant, mais où est-ce qu'on est dans le fantasme d'ingénieur ou de technophile, et on voit bien à quel point ça peut être séduisant et nous rappeler tous les films de science-fiction qu'on a vus ou les livres qu'on a lus, d'être dans cette maison du futur, ou est-ce que c'est quelque chose que fondamentalement qui va être demandé et acheté in fine par le grand public?
En fait, tout est un rapport gain-bénéfice, enfin bénéfice-coût. Il y a des choses sur lesquelles on ne sait rien. Le sommeil est un bon exemple. Et savoir un peu plus sur la qualité du sommeil, on passe 8 heures à dormir, ne rien savoir sur cette partie de sa vie, ça peut avoir des vraies conséquences. On souffre beaucoup sans le savoir d'apnée du sommeil. Ça a des conséquences sur l'ensemble de sa vie. Donc, c'est des informations qui sont pertinentes. Donc, systématiquement, ce que nous, on comprend, c'est que les gens acceptent d'être un peu traqués ou de donner leurs données s'ils ont un bénéfice concret et immédiat. Si on dit aux gens, donnez-nous toutes vos informations et peut-être vous aurez un bénéfice, ça ne marchera jamais. Donc, ça ne va pas se passer de manière... on va passer de rien à la salle de bain totalement connectée qui va vous traquer. Ça va se passer par objets qui vont vous permettre d'avoir un bénéfice suffisamment clair et précis et au départ attribuable. Donc, vous allez avoir, on le voit déjà, des petits bracelets qui permettent de monitorer votre rythme cardiaque parce que les problèmes cardiaques pris suffisamment tôt, ça se soigne très bien. Vous allez avoir effectivement, probablement assez rapidement maintenant, sur la base de ce qu'on fait avec nos miroirs CareOS, un suivi dermatologique. C'est-à-dire quelque part, c'est tout bête, mais aller voir un médecin qui va regarder un grain de beauté à un moment donné où il y a un problème, 90% s'il y a un problème, c'est que c'est trop tard. Donc quelque part, on va être vraiment beaucoup sur des objets de prévention. Nous, là maintenant, en termes de volume, on voit, parce que la brosse à dents est devenue devant la balance, l'objet connecté le plus vendu au monde. Et alors, pourquoi ça se passe? Parce que savoir si ses enfants sont bien brossés les dents ou apprendre à bien se brosser les dents, parce qu'on a parlé du tracking, mais il y a une autre chose qui est intéressante, c'est l'apprentissage. Vous avez beaucoup d'objets du quotidien, et c'est pour ça que nous, on utilise notre plateforme comme une plateforme pour créer de bonnes habitudes. Vous avez beaucoup d'objets du quotidien que vous pensez savoir utiliser, mais que vous utilisez extrêmement mal. Alors, vous utilisez suffisamment bien pour en être satisfait, mais pas assez bien pour que le bénéfice que vous en attendez arrive. Prenons un exemple tout bête, hein, se brosser les cheveux, vous avez un retour, vous y arrivez à peu près, mais en fait on se rend compte qu'il y a certaines choses qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Se laver la peau, qui est quand même quelque chose qu'on devrait faire systématiquement, on se rend compte que près d'une personne sur deux ne se lave pas la peau tous les jours. Donc ces petites choses qui vont nous permettre d'améliorer notre santé au quotidien, elles vont rentrer assez vite maintenant dans notre vie, d'autant plus que ce n'est pas tant les assureurs qui veulent cette information. C'est un problème pour les assureurs d'avoir cette information, dans beaucoup de cas. C'est les marques de cosmétiques, c'est les marques de consommables qui vendent de la pâte dentifrice, du savon, qui trouvent un intérêt économique à savoir ce que vous avez consommé pour vous en redonner, alors c'est de la facilité, mais également pour augmenter leur business.
Bon, mot de la fin pour Anne-Caroline, du coup, la maison de demain, donc, qui va à la fois nous chouchouter, mais enfin qui va pas mal nous surveiller quand même, quoi.
Oui, après, je pense qu'elle va évoluer. Si on peut les déconnecter, c'est pas mal. Hein.
Déconnecter la maison connectée. Bon, on va terminer là-dessus. Bon, si vous avez aimé le miroir connecté, le tapis de bain intelligent, le lit qui analyse votre santé, voire les toilettes qui analysent leur contenu, vous allez adorer notre prochain podcast, le dernier épisode de notre série autour de la maison du futur, puisqu'on va s'intéresser aux appareils électroménagers complètement fous qui nous attendent dans les années qui viennent. Merci de nous avoir suivis, merci à tous les deux d'avoir été avec nous, Anne-Caroline et Vincent, et on se retrouve très bientôt pour le dernier épisode de notre série sur les maisons du futur. À très vite.